Vous écoutez, on lit pour vous.
La gale démystifiée. Un texte de Chloé Bourquin, paru le 14 février 2025 dans la presse. Des cas de gale ont été détectés par une infirmière dans une école secondaire de Trois-Rivières. Doit-on s'inquiéter? Pourquoi parle-t-on de cette maladie? Une infirmière scolaire a récemment découvert des cas de gale dans une école secondaire de Trois-Rivières. Le Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux de la Mauricie et du Centre du Québec, CIUS, MCQ, en a informé les parents par l'entremise d'une lettre qui leur a été envoyée mardi en fin de journée. Le nombre exact d'élèves infectés n'a pas été dévoilé. Nous sommes en contact avec l'établissement scolaire afin d'informer, soutenir et instaurer des mesures de prévention adaptées, nous indique par courriel Kelly Foran, directrice des communications du CIUS MCQ. Qu'est-ce que la gale? La gale est une infection de la peau causée par un parasite. Elle se manifeste par des lésions qui prennent la forme de sillons très fins, qui causent des démangeaisons intenses. Ces lésions peuvent se situer entre les doigts et les orteils ou dans les plis de la peau, sous les aisselles, à l'intérieur des poignets et des coudes, autour du nombril, au niveau de l'aine, à la taille, près des parties génitales, etc. La gale se transmet lors de contacts rapprochés et prolongés avec une personne infectée ou encore en partageant des vêtements ou des draps avec celle-ci. Des éclosions peuvent, par exemple, survenir dans des familles, dans un groupe d'amis proches, ainsi qu'entre deux personnes ayant des relations sexuelles. Habituellement, la gale ne se transmet pas par contact occasionnel, souligne la docteur Judith Fafard, directrice médicale du Laboratoire de santé publique du Québec. Est-ce grave? Dans de rares cas, lorsqu'elle touche de très jeunes enfants, des personnes âgées ou des personnes au système immunitaire affaibli, la maladie peut dégénérer en une forme grave qui est à la fois très contagieuse et difficile à traiter. Mais, habituellement, la gale n'entraîne pas de conséquences graves sur la santé. Ça peut se transmettre, ce n'est pas le fun, ça rend la vie inconfortable, mais ce n'est pas dangereux pour la vie, insiste la docteure Fafard. Les lésions ne laissent pas de cicatrices une fois la maladie traitée, sauf si on les gratte et qu'elles se surinfectent. Est-ce difficile de s'en débarrasser? Le traitement de la gale peut être pénible. Il nécessite l'utilisation d'une crème qu'il faut appliquer sur tout le corps et laisser agir toute une nuit. Il est également recommandé de laver à l'eau chaude la literie et les vêtements. Le problème, c'est qu'il peut s'écouler de 3 à 6 semaines entre la transmission du parasite et l'apparition des premiers symptômes, période pendant laquelle la personne infectée n'en a pas conscience et peut transmettre ce parasite à son entourage. Fait à noter, on peut attraper la gale de nouveau, même si on parvient à s'en débarrasser une première fois. Lorsque des cas sont détectés, par exemple dans une école ou dans un lieu de travail, si on voit que c'est une éclosion non contrôlée, on peut traiter de façon préventive, mais normalement, on fait juste une surveillance, explique la docteur Fafard. Est-ce fréquent? Il est difficile d'avancer un chiffre concernant le nombre de personnes qui seraient infectées par année au Québec, puisqu'il ne s'agit pas d'une maladie à déclaration obligatoire. On en voit de temps en temps, en consultation, souligne la docteur Fafard. Selon les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, à l'échelle mondiale, on estime que la gale touche plus de 200 millions de personnes à tout moment et plus de 400 millions de personnes cumulativement chaque année. Comment réagir vis-à-vis de cette maladie? La gale est une maladie relativement fréquente, généralement peu sévère, mais dont les symptômes sont désagréables et qui peut être pénible à traiter. Mais surtout, elle est assez méconnue du grand public, ce qui fait qu'elle est souvent accompagnée de son lot de stéréotypes et qu'elle entraîne une stigmatisation des individus touchés. Non, il n'y a pas de lien avec un manque d'hygiène ou avec la pratique de certaines activités sexuelles, indique Kelly Foran en entrevue avec la presse. Lorsque cela concerne des adolescents, ceux-ci peuvent éprouver une certaine appréhension à l'idée d'en parler à leurs parents. Pour la docteure Fafard, il ne faut pas paniquer. Il faut rester vigilant, consulter si on remarque des symptômes et suivre les recommandations de son médecin. C'était « La gale démystifiée », un texte de Chloé Bourquin, paru le 14 février 2025 dans La Presse.
Le fait de mal dormir augmenterait le risque de développer l'Alzheimer. Un texte de Florence Morin-Martel, paru le 28 janvier 2025 dans Le Devoir. Le fait d'avoir un sommeil de mauvaise qualité pourrait augmenter le risque de développer l'Alzheimer, révèle une récente étude à paraître qui a été menée par des chercheurs québécois. Cela provoquerait l'accumulation dans le cerveau de certaines protéines, ce qui est un signe distinctif de cette maladie neurodégénérative. Les protéines en question, l'amyloïde et la tau, peuvent être présentes chez tous les êtres humains, explique Sylvia Villeneuve, chercheuse et directrice du Centre d'études sur la prévention de la maladie d'Alzheimer à l'Institut Douglas à Montréal. Mais avec l'Alzheimer, c'est comme si elles étaient plus nombreuses, changeaient de forme et devenaient plus toxiques pour le cerveau. Plusieurs années après, elles vont éventuellement mener à des troubles cognitifs, affirme au Devoir la docteure en neuropsychologie, qui est aussi professeure associée à l'Université McGill. Pour mener l'étude, Mme Villeneuve et son équipe ont analysé la quantité de protéines associées à la maladie, soit bêta-amyloïde et tau, se trouvant dans le cerveau de 220 personnes. Pour ce faire, ils ont utilisé une méthode d'imagerie en médecine nucléaire, TEP scan. Ils ont également fourni des montres aux participants permettant de mesurer avec précision la qualité de leur sommeil. Ces personnes n'avaient pas de signes cliniques d'Alzheimer, mais étaient toutefois plus à risque de la développer étant donné qu'un de leurs proches souffrait de la maladie. L'expérience, qui a d'abord été faite en 2017, a été répétée 4 ans plus tard. On s'est rendu compte que chez ceux qui avaient un sommeil variant d'une nuit à l'autre et de moins bonne qualité, on voyait malheureusement que la bêta-amyloïde s'accumulait plus vite dans leur cerveau, souligne-t-elle. Un sommeil de moins bonne qualité comporte souvent peu de phases de type lent et profond, explique Mme Villeneuve. Or, ce stade est crucial, puisque c'est entre autres durant celui-ci que le système nommé glymphatique entrerait en action, dit-elle. Il permettrait de nettoyer les déchets dans notre cerveau, notamment la bêta-amyloïde et la tau. Des pistes de prévention. Une personne qui dort mal ne va pas automatiquement souffrir d'Alzheimer plus tard, précise la professeure. C'est une maladie multifactorielle. Il y a entre autres la génétique qui entre en jeu. On pense toutefois qu'à peu près 50% des facteurs de risque de la maladie seraient modifiables. Le sommeil ferait partie de ces 50%. Il existe certains trucs clés pour améliorer la qualité du sommeil, rappelle Sylvia Villeneuve. On essaie de se mettre au lit à des heures régulières et faire de l'exercice physique, mais pas juste avant de se coucher, mentionne-t-elle. Le sommeil est aussi essentiel pour consolider la mémoire, poursuit-elle. Si vous dormez mal, vos souvenirs vont se faire moins bien. L'étude de Mme Villeneuve, qui a déjà été présentée à l'occasion de 2 conférences internationales, fait actuellement l'objet d'une révision par les pairs et devrait être publiée prochainement. Notre objectif est de travailler en collaboration avec d'autres groupes à travers le monde pour répliquer les données que nous avons obtenu. C'était « Le fait de mal dormir augmenterait le risque de développer l'Alzheimer », un texte de Florence Morin-Martel paru le 28 janvier 2025 dans Le Devoir.
De nouveaux locaux pour remplir la mission du Centre d'amitié autochtone de Trois-Rivières, un texte de Marie-Céline Heinisch, paru le 31 janvier 2025 dans Espace autochtone. Lorsqu'enfant, elle a quitté sa communauté avec sa famille pour aller vivre en ville, Jenny McPherson Bacon se souvient d'avoir connu les bénéfices d'un centre d'amitié autochtone. Ces lieux sont souvent le premier arrêt pour les personnes issues des communautés autochtones qui arrivent en ville, non seulement au Québec, mais dans les centres urbains partout au Canada. Depuis près d'un an, Jenny McPherson Bacon est directrice des opérations du Centre d'amitié autochtone de Trois-Rivières, CAATR. Fière Innu de Pessamit, elle habite dans la région de Trois-Rivières depuis 25 ans. Elle connaît très bien la réalité des Autochtones arrivant en ville, l'ayant elle-même vécue, et grâce aux différents rôles qu'elle a occupés dans des centres d'amitié. Quand sa famille a quitté sa communauté, Jenny a eu la chance de se retrouver en milieu autochtone. Elle allait à l'école à Wendake et elle fréquentait le Centre d'amitié autochtone de Québec. « J'avais accès à un réseau sécurisant », dit-elle. Jenny se souvient des défis que ses parents ont dû surmonter dans cette transition. « Je le voyais que c'était pas facile pour ma mère, à l'époque, de sortir de la communauté et d'arriver en ville. » Et je me disais, mais qu'est-ce qu'on fait ici? Pourquoi on ne va plus en forêt? Ça a été tout un choc. Mais ça peut bien se passer, c'est ce que j'ai retenu de tout ça. Ça peut bien se passer quand les moyens sont là. C'est pour ça que j'ai envie de faire partie des moyens, raconte-t-elle. Ce n'est pas toujours par choix que beaucoup d'Autochtones quittent leur communauté, explique Jenny McPherson Bacon. La plupart du temps, c'est par obligation que les Autochtones arrivent en ville, pas nécessairement par choix. C'est dommage, parce que ça part mal dans le chemin de vie. Ça vient avec tout plein de défis. C'est pour ça qu'on est là, explique-t-elle. Certains soins sont inexistants, inaccessibles en communauté. On parle d'accès à des services pour des enfants en communauté, de soins de santé pour des enfants à besoins particuliers, d'avoir accès aussi à une éducation supérieure. Ce n'est pas toujours possible en communauté. Donc, il y a plein de raisons qui justifient le fait de s'en aller en ville. Jenny a été intervenante de proximité. Elle est aussi éducatrice spécialisée et a fait des études en psychologie ainsi qu'en psychoéducation. Elle comprend très bien que le choc culturel et ou le déracinement peuvent se manifester de différentes façons d'une personne à l'autre. Elle constate que les personnes vont parfois minimiser ce qu'ils, elles, vivent. Mais l'expérience et l'expertise de Jenny, comme celle des autres employés des centres d'amitié, permettent de reconnaître ces réalités et d'adapter les services selon les besoins. De nouveaux locaux rejoignant plus de gens. Ouvert depuis janvier 2024, le nouvel emplacement du CAATR dans un nouveau bâtiment près de l'Université du Québec à Trois-Rivières, UQTR, offre maintenant un espace mieux adapté aux besoins spécifiques des Autochtones qui vivent à Trois-Rivières. Il y a eu une augmentation de l'utilisation des services en raison de la proximité des sites étudiants. Précédemment situés au centre-ville de Trois-Rivières, où il reste maintenant seulement un point de service dans un plus petit local, les nouveaux locaux du CAATR sont stratégiquement situés tout près de la résidence étudiante autochtone Washka-Witsiawin, et du Centre de la petite enfance autochtone, CPE, premier pas. On rejoint beaucoup plus la population étudiante. D'ailleurs, c'est nous qui offrons les services d'animation communautaire et les services de proximité aux résidences étudiantes. C'est un partenariat, affirme Jenny. Avant, il fallait faire des activités externes pour rejoindre cette population-là. De ce que je connais maintenant, on rejoint les parents qui fréquentent le CPE, qui vont venir faire un petit tour, qui vont voir les affiches de nos activités. On a une proximité qui est vraiment gagnante. Qu'est-ce qu'un centre d'amitié autochtone? Les centres d'amitié autochtone bâtissent des espaces, des programmes et des services culturellement pertinents et sécurisants, ancrés dans les valeurs traditionnelles autochtones. Ils créent des ponts entre les nations et avec les services urbains, qui sont souvent peu adaptés aux réalités autochtones. Ils offrent aussi des accompagnements pour naviguer dans les différents services. Comme beaucoup d'Autochtones, Jenny se sent responsable de redonner aux peuples autochtones et elle trouve que son rôle de directrice au CAATR lui permet de le faire. C'est sûr que je vais toujours travailler pour les Premières Nations, ça c'est clair, il n'y a pas de doute là-dessus. Tant que je serai utile ici, je vais être là, travailler au centre d'amitié ou travailler ailleurs, mais pour les Premières Nations. C'est ma mission, dit Jenny McPherson-Bacon. Une grande partie des Autochtones qui fréquentent le Centre d'amitié autochtone de Trois-Rivières sont issus de la nation Atikamekw, mais il y a aussi beaucoup de membres des nations Innus et des Inuits et plusieurs autres des 11 nations qui se trouvent au Québec. Service et symbolique autochtone. On voit beaucoup la symbolique et les enseignements du cercle dans plusieurs cultures autochtones et dans plusieurs éléments du centre d'amitié aussi, que ce soit les programmes, des visuels ou des valeurs. Un concept qui n'est pas étranger à Jenny. Il y a comme une vision. La vision circulaire, en tant que telle, est un peu le chemin de la vie. Il y a quelque chose de continu. Des fois, je faisais de la sensibilisation auprès des partenaires. C'est difficile de s'imaginer un triangle ou un carré. C'est quelque chose de très... C'est pointu. C'est structuré. Un carré n'a pas de douceur, tandis que notre vision a beaucoup de douceur et de continuité. Quelque chose qui se rejoint, affirme-t-elle. Jenny se souvient que sa grand-mère, qui est née en forêt dans une tente, racontait qu'elle était très mal à l'aise avec le concept d'une maison en carré et se demandait pourquoi il y avait des carrés partout et pourquoi chaque membre de la famille était séparé dans chacun de ces carrés qui étaient les pièces de la maison. On n'a jamais dormi dans une chambre chez ma grand-mère. Tout le monde dormait dans le salon parce qu'on se sent comme dans la tente. La diversité des cultures et identités est aussi soulignée dans les enseignements du cercle, quelque chose qui fait aussi partie de la culture des centres d'amitié. Fierté culturelle, un processus de changement de social. Aujourd'hui, maman d'un jeune garçon de 5 ans, Jenny McPherson-Bacon, raconte que son expérience en tant qu'enfant autochtone en milieu urbain n'est pas la même que celle de son fils aujourd'hui. Quand Jenny était jeune, elle n'avait pas des traits typiquement innus et elle en était contente parce qu'elle ne se faisait pas taquiner, ne se faisait pas harceler et, à la limite, elle n'était pas victime de violence. Ses amis innus qui avaient des traits beaucoup plus marqués en ont été victimes. Je me disais souvent, et c'est malheureux, qu'est-ce que je vais dire, mais je me disais souvent, pourquoi je suis pas née québécoise? J'aurais aimé mieux naître québécoise parce que je voyais tout ce qui se passait et je me disais, oh mon Dieu, c'est pas cool d'être innu ou d'être autochtone. Je me disais, mon Dieu, que c'est un fardeau. Pourquoi ça a tombé sur moi? La réalité est différente pour son fils. Que mon fils ne grandisse pas avec ça dans la tête, mais avec fierté et avoir hâte à la saison des pow-wow, puis d'enfiler son régalia, puis d'être fier et de vouloir porter ses cheveux longs sans tenir compte de l'avis de personne, j'ai envie que lui grandisse avec ça. pas de grandir en se disant « Bon, on va encore se faire voler nos souliers » ou « Bon, on va vivre de la discrimination » ou « On va se faire harceler par des allochtones dans le quartier ». Son fils est intéressé par sa culture d'origine, ce qui fait plaisir à Jenny. Il danse dans les pow-wow. Aussi, on est dans le processus qu'il veut se faire allonger les cheveux. Il regarde constamment des vidéos. Il veut perfectionner ses danses, dit-elle. Jenny souhaite à son fils et à tous les Autochtones de bien vivre avec leur identité. Ma mission de vie, c'est pas mal ça. C'est de rendre les gens fiers de qui ils sont et de jamais, au grand jamais, devoir grandir avec l'idée que c'est décevant d'être né avec ce bagage-là et d'être autochtone. C'était de nouveaux locaux pour remplir la mission du Centre d'amitié autochtone de Trois-Rivières, un texte de Marie-Céline Heinisch, paru le 31 janvier 2025 dans Espace autochtone.
La guerre du Golfe du Mexique. Un texte de Patrick Moreau, paru le 5 février 2025 dans Le Devoir. Tout comme les autres mots, les noms de lieux sont le fruit de l'histoire, autrement dit de l'usage, et ils s'imposent à tous par des détours parfois singuliers. Le Canada doit ainsi son nom à un mot huron et iroquois qui signifie « village », et à une mécompréhension de Jacques Cartier qui crut à tort qu'il s'agissait du nom de la contrée. Le continent américain lui-même aurait dû, plus logiquement, s'appeler Colombie, du nom de son premier découvreur, plutôt que d'adopter celui d'un explorateur relativement méconnu, Amerigo Vespucci. Ce dernier dut cet improbable hommage au succès que connurent certaines de ses lettres, peut-être apocryphes, et surtout au cartographe allemand Martin Waldseemüller, qui nomma d'après son nom ses nouvelles terres découvertes depuis peu. Ces dernières auraient aussi bien pu s'appeler Mexica, du nom du peuple, les Aztèques, qui dominaient les rivages continentaux où abordèrent les premiers Européens, ou Île de la Tortue, si des colons français ou hollandais s'étaient inspirés, pour les désigner, de ce mythe de création autochtone dont ils avaient eu vent depuis qu'ils occupaient quelques territoires dans l'est de ce nouveau continent. Bref, il y a dans la toponymie une part de hasard, d'indéterminé. Bien malin qui pourrait expliquer pourquoi le golfe qui borde les côtes du Mexique et du sud des États-Unis s'appelle Golfe du Mexique plutôt que Golfe de la Louisiane, du Texas ou encore des Caraïbes. Ce qu'on sait, en revanche, c'est que ce toponyme s'est imposé dans l'usage depuis fort longtemps. Il apparaît déjà sur une carte du Vénitien Tommaso Porcacci, qui date de 1576. Ce caractère en partie aléatoire de la toponymie ne fait évidemment pas l'affaire de tout le monde. Il déplaît entre autres au volontarisme de certains qui, faute de pouvoir plier le réel à leurs désirs, peuvent au moins s'en donner l'illusion en changeant les mots et les noms qu'on utilise pour en parler. Faire table rase du passé. Du temps de Staline, les Soviétiques se montrèrent particulièrement actifs dans ce domaine. Ils débaptisèrent à tour de bras les villes de l'ex-Empire russe pour leur donner les noms de membres importants du parti. Petrograd devint ainsi Leningrad. Tsaritsyn prit le nom de Stalingrad. Ce sont les cas les plus connus, mais ils furent loin d'être les seuls. Nijni Novgorod changea de nom pour honorer le romancier Maxime Gorki. Tver prit celui de Mikhail Kalinin, président du Présidium du Soviet suprême. Viatka fut rebaptisé Kirov en l'honneur du camarade Sergueï Kirov, dont l'assassinat, en 1934, lança le signal des Grandes Purges. Et Ordjonikidze, qui a donné temporairement son nom à l'ex-Vladikavkaz, célébra la mémoire de ce commissaire du peuple à l'industrie lourde qui sera suicidé en 1937 à la suite de certaines frictions entre lui et Staline, etc. Les pontes du Parti communiste s'offraient des cités comme on se distribue des cartes à jouer, ou comme les tsars d'autrefois distribuaient fiefs et serres à leurs fidèles. Ils cultivaient l'illusion, en changeant les noms des villes de cette manière, de faire table rase du passé, d'asseoir définitivement le pouvoir du communisme. Cette soviétisation des noms de lieux ne s'arrêta d'ailleurs pas aux villes. Les plus hauts sommets de l'URSS seront renommés aussi. Pic Lénine, Pic Staline, Pic de la Victoire, etc. Cependant, l'idée ne vint jamais à l'esprit de tous ces apparatchiks de rebaptiser des lieux que les frontières de l'URSS n'englobaient pas. Par exemple, de renommer la mer Noire « mer des Soviets » sans consulter ses autres riverains, ou la mer Caspienne « mer de la Révolution » au grand dam des Iraniens. Trump City? Car c'est sans doute ce qu'il y a de plus choquant dans ce décret que vient de signer le président Trump, au moyen duquel il prétend remplacer le nom du Golfe du Mexique par celui de Golfe de l'Amérique. Si ce dernier est motivé par la même démesure et le même narcissisme idéologico-nationaliste que Staline et ses sbires, en décidant cela de manière unilatérale, il agit comme si ce golfe de la mer Caraïbe lui appartenait, comme si les États voisins et le reste du monde n'avaient absolument pas leur mot à dire à propos de ces changements toponymiques, comme si sa volonté, incarnant celle du pays qu'il dirige, devait s'imposer à tous, souverainement. On peut se demander d'ailleurs quelle lubie le piquera ensuite. Celle de renommer Washington Trump City, ou Moscavia, la ville de San José, ou Zuckerberg's Island, l'île de Kauai, dans l'archipel d'Hawaï. À moins que les cartes publiées aux États-Unis ne nomment plus dorénavant, au nord du 49e parallèle, qu'un 51e État. Quand bien même Google accepterait servilement de lui emboîter le pas et d'intégrer à son application Google Maps ce pseudo-golfe de l'Amérique, il ne tient qu'aux cartographes, aux géographes, aux voyagistes, aux journalistes, aux individus du monde entier de refuser avec indifférence ce dictat toponymique et de lui conserver son nom de Golfe du Mexique. Ce serait un bon moyen de rappeler aux États-Unis qui en douteraient qu'ils ne sont pas le seul et unique peuple souverain sur cette planète. Une façon aussi de nous assurer que l'usage majoritaire finira par primer, tout en pratiquant une forme inédite de résistance passive, la résistance toponymique. L'histoire enseigne de toute façon que les noms de lieux résistent mieux au passage du temps que les idéologies politiques. En Russie, la très grande majorité des villes débaptisées sous Staline ont retrouvé leurs anciens noms après la chute du communisme. C'était « La guerre du Golfe du Mexique », un texte de Patrick Moreau paru le 5 février 2025 dans Le Devoir.